Les Agités du Mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les Agités du local du mois.
Premier épisode de notre nouvelle série cette semaine avec l'association Place au Vélo. Elle est implantée à Laval depuis 1994 et regroupe près de 300 adhérents. Vous la connaissez peut-être pour sa fameuse bourse au vélo, initialement prévue en avril et reportée le 5 septembre prochain, ou peut-être pour les ateliers de réparation de votre bicyclette organisés tous les mois. Mais son champ d'action est bien plus large, vous allez l'entendre, par la voix de Philippe Mautier, le président de Place au Vélo, qui se souvient d'abord de la création de l'association.
Ce n'est pas moi qui étais à l'origine, mais j'étais déjà dans l'équipe de départ. Et en fait, c'est venu de besoins ressentis par un petit groupe de cyclistes. Et je crois qu'il y avait eu un accident mortel aussi, c'est même certain. Il y avait eu un accident mortel. Et donc, voilà, de là est née l'idée d'une association de cyclistes, d'usagers cyclistes. Et on a adhéré aussitôt à la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui regroupe plus de 400 associations et antennes en France actuellement. L'idée, c'est de promouvoir le vélo comme mode de déplacement, moyen de transport, en complément de la marche, des transports en commun et de la voiture, bien sûr. Alors, on intervient surtout sur Laval Agglo, Laval Agglo et parfois sur d'autres communes du département, en fonction des sollicitations, de nos capacités aussi. Par exemple, on est aussi adhérent à l'AF3V, Association Française des Véloroutes Voies Vertes, où on a une délégation départementale. Donc on s'intéresse à ce qui se fait autour des voies vertes en Mayenne et véloroutes. Donc il n'y a pas que la vélo française, le halage, mais il y a aussi les voies ferrées et peut-être des circuits vélotouristiques ou qui peuvent être utilisés aussi par les cyclistes utilitaires, c'est-à-dire ceux qui vont au travail à vélo par exemple. Donc on est vigilant par rapport à ça et on fait des propositions aussi dans ce cadre-là. Alors les actions principales sont la promotion du vélo auprès du public avec tous les avantages et les bienfaits du vélo par rapport aux autres modes de transport et inviter aussi les usagers à repenser peut-être leur mode de déplacement, à réfléchir sur leur mode de déplacement, à quitter la voiture pour faire 2 km et aller chercher une course à 2 km autrement qu'en voiture, partager sa voiture peut-être plus souvent. Il y a des tas d'habitudes à réinterroger chacun. Et donc on travaille aussi en direction des élus et des techniciens des collectivités pour proposer des aménagements cyclables sous forme variée. Il y a toute une panoplie de moyens techniques pour mettre les gens en sécurité et aussi partager avec les autres usagers la rue. Donc les autres activités importantes qui permettent de promouvoir le vélo, ce sont nos ateliers participatifs et solidaires pour que les gens apprennent à réparer, régler, entretenir leur vélo eux-mêmes. Des balades vélo en dehors de la période confinée actuelle, mais qui sont interrompues. Mais bon, on essaie aussi de promouvoir des balades urbaines, notamment pour les aménagements cyclables et puis la conduite à vélo en ville. On fait aussi une bourse annuelle régulièrement pour l'échange et la vente et le dépôt des vélos. Voilà, il y a souvent un tiers de vélos d'enfants, par exemple, donc c'est intéressant de profiter de ce moment-là. Autre activité importante, c'est la vélo-école qu'on souhaite développer, donc aussi bien les jeunes, mais aussi les adultes qui n'ont jamais appris ou qui souhaitent reprendre le vélo après une période d'interruption ou envisager le vélo assistance électrique, par exemple. Alors, on relaye bien sûr aussi les campagnes de notre fédération, la FUB. Par exemple, à l'automne, on fait toujours une campagne par rapport à l'éclairage des cyclistes, la nécessité d'être bien visible et le rappel de la réglementation à cette occasion pour être plus en sécurité à vélo à la nuit tombante ou la nuit.
Et demain, justement, on zoome sur la vélo-école qui permet aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de se remettre en selle sereinement. Waiting tables at the burger stand. You are sitting alone. I came up for your order and asked you what you want. You said, do you really want to know? Just got to town, I didn't have a friend, no. I didn't even have a car. Down at the three clubs I wrote you a poem. And you bought the drinks at the bar. Parmi les nombreuses activités de l'association que son président Philippe Mautier nous a détaillées hier, elle a récemment lancé la vélo-école, ou comment apprendre ou réapprendre à enfourcher sa bicyclette et à circuler en toute sécurité. Pour le moment, une douzaine de personnes ont suivi ces séances données par des bénévoles de l'association. Comment se déroule-t-elle ? Réponse avec le président de l'association, Philippe Mottier.
Alors, on s'adapte à l'âge de la personne, enfant qui n'a pas appris, ça arrive. Hein. Les jeunes qui n'ont pas appris dans le cadre de l'école ou avec leurs parents qui souhaitent quelqu'un d'extérieur, la famille, ou des gens plus âgés, des adultes qui n'ont jamais eu l'occasion pour des raisons culturelles, par exemple, notamment beaucoup de femmes sont demandeuses plus que d'hommes qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre. Donc, on fait une première séance pour voir le niveau de la personne. On commence l'apprentissage de base, donc andrésienne parfois, et jusqu'à l'autonomie de conduite en ville, avec les conseils appropriés et une formation qui peut prendre 8, 10, 12, 15, 20 séances d'une heure environ, selon les capacités des personnes. Donc c'est tout à fait utile pour ces gens-là, et qui sont très contents et fiers de pouvoir gagner un peu d'autonomie avec le vélo. Parfois ils ne le savent pas qu'on fait cette activité-là, parfois aussi ils hésitent beaucoup à venir, j'allais dire courageusement pour eux, venir téléphoner et dire j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de quelques séances. Et donc là-dessus, on ne porte pas du tout de jugement et on les encourage. Et leurs progrès sont souvent très réels après une mise en confiance et des débuts sans chute. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de fait grave, donc on les rassure très vite. Il faut vaincre la peur et l'appréhension. On accompagne vraiment pas à pas la progression de la personne avec des séances individuelles. Pour la plupart, ce sont des séances individuelle sur un parking adapté pour ça, avec une légère pente pour les débutants. Et donc là, on est en milieu sécurisé et on fait les apprentissages de tout ce qui compte pour la conduite à vélo, c'est-à-dire maîtriser la trajectoire, maîtriser le freinage, maîtriser la direction, bien indiquer ses changements de direction avec le bras, ce qui n'est pas accessible dès le début, savoir prendre des virages, savoir s'arrêter. C'est beaucoup de choses à prendre en compte pour un débutant, donc il y a toute une progression pour arriver à l'autonomie. C'est très varié, mais c'est souvent, la plupart du temps, ce sont des femmes qui n'ont pas pu apprendre pour des raisons culturelles, géographiques et culturelles ou familiales, nées dans des familles et des cultures où les garçons avaient souvent le droit d'aller apprendre à nager, à faire du vélo, mais les filles n'avaient pas les mêmes droits. Donc voilà, c'est des gens adultes qui réalisent des rêves d'enfants, enfin, là. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent au vélo assistance électrique, notamment un public plus âgé. Et donc certains se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas mûrs pour enfourcher un vélo à assistance électrique. C'est un vélo plus lourd, qui a plus de vitesse au départ. Il faut maîtriser vitesse et freinage. Ça peut demander une préparation, une maîtrise du vélo ordinaire avant, et pourquoi pas un accompagnement au début avec le vélo à assistance électrique. Les gens ont vraiment le sentiment de réussite et puis une fierté aussi d'avoir surmonté certaines appréhensions ou peurs et d'arriver enfin, pour certaines, à réaliser un rêve de gosse.
L'association Place au Vélo est aussi engagée dans le programme national Savoir rouler à vélo auprès des 6-11 ans, qui vise à rendre autonomes les futurs collégiens à vélo. Mais pour ça, encore faut-il que les villes soient aménagées pour les cyclistes. Ce sera justement notre sujet de demain. Oh, then. You fell in love with me. Yes, you did. You took me to A from Z. Yes, you did. There was something you could see. I was broken, I was poor. Then you said I could be yours, though I don't have a dime. Even bums get lucky sometimes. L'association propose la vélo-école pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour se remettre en selle, mais compte aussi améliorer les aménagements pour les cyclistes. Toujours en compagnie du président de Place au Vélo, Philippe Mottier, qui explique comment ils assurent cette mission.
En rencontrant régulièrement les élus et les techniciens, et en essayant de connaître les projets, de pouvoir aussi être consulté et donner notre point de vue sur les projets, parce que c'est important de prévoir un réseau cyclable continu, donc qui est fait de différents moyens. La demande des gens, ça se vérifie avec le baromètre des villes cyclables qui aura lieu à nouveau l'automne prochain. C'est une campagne nationale par notre fédération des usagers de la bicyclette qui demandent aux citoyens de donner leur avis sur la cyclabilité de leur ville. Donc ça a été fait, c'est tous les deux ans, donc à l'automne prochain ce sera encore le cas pour localement pour les gens pour donner leur avis sur l'état effectivement du réseau cyclable. Donc c'est important parce que ça renvoie à l'attente le dernier baromètre des villes cyclables, par exemple. Les gens ont beaucoup insisté sur l'aménagement du centre-ville. Donc ça rejoint les préoccupations de l'actuelle municipalité et de la précédente aussi sur la nécessité de transformer le centre-ville pour que ce soit plus agréable pour les piétons et les vélos, qu'il y ait moins de voitures, notamment moins de transit de voitures. Il y avait différents points qui sont en question et qui posent problème aux cyclistes. C'est notamment les intersections avec des giratoires qui ne sont pas toujours évidents à négocier pour les cyclistes, surtout les grands giratoires, donc sur les rocades par exemple. Alors, certaines rues qui étaient quand même trop circulées, peut-être pas. Voilà. Donc ça rentre dans le plan de circulation qui est en réflexion à la mairie actuellement avec la rénovation du centre-ville. Donc je pense que là, il y a vraiment un gros levier pour faire progresser l'utilisation des modes actifs. Hein. Et on attend de Laval Aglo aussi la mise en œuvre et peut-être la modification et le financement du schéma directeur d'aménagement cyclable qui a été validé et qui est peut-être à mettre en œuvre de façon accélérée maintenant. Bon, Laval était au baromètre des villes cyclables, peut-être dans sa catégorie, dans la moyenne des villes de sa taille, peut-être. On peut dire ça, mais selon les témoignages qu'on a, c'est très très variable entre le cycliste chevronné qui pédale au quotidien et qui s'intègre bien dans la circulation, ce que certains cyclistes n'osent pas faire. Et c'est important de transmettre ce message. Il faut prendre sa place dans les rues tout en respectant le code de la route. Et le cycliste est un usager comme un autre et le vélo est un véhicule. Donc dans le respect du code de la route, il doit pouvoir prendre sa place sur la chaussée comme un autre usager.
Est-ce que c'est quand même un message qui passe mieux aujourd'hui peut-être que justement au moment de la création de l'association en 1994 par exemple ?
Oui, il y a eu des progrès de fait, bien sûr. Heureusement, il y a eu des progrès, il y a eu des nouveautés au niveau réglementaire, hein, comme les panneaux laissés passer au feu, par exemple, les doubles sens cyclables. Enfin, c'est vrai qu'en ville, on a pu aménager des choses nouvelles, les sas, ces espaces au feu que les automobilistes doivent respecter, ils ne le savent pas toujours. C'est une infraction du code de la route, donc bon, ils ne sont peut-être pas suffisamment matérialisés aussi. Donc je pense qu'il y a toujours un besoin d'informations sur les nouveautés du code de la route. Il y a des financements quand même, l'État aide les collectivités aussi à mettre en place des infrastructures utiles. Il y a effectivement une sensibilisation de tous maintenant qui montre qu'on peut revenir à une période passée où il y avait plus de vélos.
Autre tendance observable depuis quelques années, avec la pratique du vélo, se sont développés les ateliers pour apprendre à réparer sa bicyclette. L'association propose ce rendez-vous tous les mois à Laval et ça marche très bien, vous l'entendrez demain.
I've never been a hero. I can't pretend to have a plan. No, I just want to be a regular guy. Does that mean I could be your man?
Chaque mois, des bénévoles de l'association proposent de vous aider à réparer vous-même votre bicyclette. Ça se passe le samedi matin à Bicyclem, 46 rue du Lieutenant à Laval. Explication avec le président de Place au Vélo, Philippe Mottier.
On souhaite maintenir et développer encore plus, peut-être prochainement, avec un futur local pour l'association, puisqu'on n'en a pas actuellement. Donc un atelier participatif et solidaire, c'est la formule en fait de ces ateliers où les gens viennent apprendre à régler, réparer, entretenir même leur vélo pour les choses simples, hein, en complément de ce que peuvent faire des professionnels. Et donc, à travers ça, on a adhéré à la Fédération de l'Heureux Cyclage, qui est une fédération d'ateliers vélo en France, qui développe ce modèle, en fait, avec du réemploi aussi, de pièces détachées, recycler de vieux vélos et parfois d'emploi. On fait une information sur chaque date sur notre site internet, placeauvélo.org. Il y a un calendrier où on annonce nos différentes actions, dont les ateliers vélo. Et puis ensuite, les gens s'inscrivent de façon à pouvoir accueillir et avoir suffisamment de bénévoles sur un créneau actuellement de 2 heures. On échange en fait nos connaissances, hein, bénévoles et avec un professionnel actuellement. On échange nos connaissances en fait pour gagner en autonomie, ne pas être freiné parce qu'on ne sait pas réparer une crevaison, par exemple. Ça peut être savoir effectivement changer une chambre à air si on a une crevaison, régler un frein ou changer des patins de frein, des freins qui sont mal réglés ou qui sont plus efficaces. Régler un dérailleur aussi, c'est une demande très fréquente, une chaîne qui saute, des vitesses qui ne passent pas. Donc c'est des choses un peu basiques mais essentielles, quoi. Mettre une lumière aussi qui fonctionne ou qui ne fonctionne plus, pourquoi, hein. Donc voilà. Apprendre à gonfler un vélo, il y a des gens qui ne savent pas gonfler un vélo. Les gens viennent avec leur vélo et puis le matériel est sur place, donc on voit ce qu'on peut faire sur place. Enfin, la personne fait avec nos conseils, normalement c'est ça.
Parmi les projets aussi à venir qui attendent l'association, il y a toute cette notion de marquage de vélo pour éviter de perdre son vélo tout simplement.
Oui, là on est en train de faire une acquisition de machines à graver, une machine à micro-percussion, et on a donc des kits de marquage qui sont commandés. On sera opérationnel notamment pour la journée du Tour le 6 juin au Square de Boston. On sera présent et on pourra donc faire des marquages de vélo. Ça consiste en un numéro qui est gravé sur le cadre et qui est enregistré sur une base de données. Et ça permet, quand le vélo est volé et retrouvé, les forces de l'ordre peuvent identifier, retrouver le propriétaire avec un accès à cette base de données. Et donc ça permet de multiplier par 3 la restitution des vélos volés. Au lieu de 3% de vélos volés restitués aux propriétaires actuellement en France, on peut passer à 9%, enfin jusqu'à présent. Le procédé Bicycode, il s'appelle comme ça, qui est développé par notre fédération depuis quelques années. Et donc là, on a décidé, nous, de s'y investir à l'aval, d'autant plus qu'il y a une nouvelle réglementation cette année, puisque les professionnels vendent le neuf avec des vélos immatriculés. Et puis, à partir de juillet prochain, ils vendront des vélos d'occasion aussi marqués, donc chez le vendeur.
Projet à développer dans les prochains mois, tout comme ce futur local de l'association à Laval. Demain, on évoque la place du vélo dans les trajets domicile-travail. Last drama fest was good in school. Yes, when I sing, I'm flat or short. Then you took your aim at me, and you shot your arrow through my heart. L'association a aussi de nombreux projets, notamment celui d'un nouveau local pour multiplier ses actions, mais aussi celui du développement du marquage de vélos pour éviter les vols. Je vous laisse écouter les détails avec le président Philippe Moitié.
Là, on est en train de faire une acquisition de machines à graver. On a donc des kits de marquage qui sont commandés, qui arrivent demain d'ailleurs. Donc on sera opérationnel, notamment pour la journée du Tour, le 6 juin, au Square de Boston. On sera présent et on pourra donc faire des marquages de vélo. Il y a déjà quelques marquages gratuits financés par la ville de Laval. Et puis après, on pourra prendre ce rendez-vous dans notre futur local aussi pour le gravage. Alors ça consiste en un numéro qui est gravé sur le cadre et qui est donc enregistré sur une base de données. Et ça permet, quand le vélo est volé et retrouvé, les forces de l'ordre peuvent identifier, retrouver le propriétaire avec un accès à cette base de données. Ça permet de multiplier par 3 la restitution des vélos volés. Au lieu de 3% de vélos volés restitués aux propriétaires actuellement en France, on peut passer à 9%, enfin jusqu'à présent. Le procédé Bicycode, il s'appelle comme ça, qui est développé par notre fédération depuis quelques années. Et donc là, on a décidé, nous, de s'y investir à l'aval, d'autant plus qu'il y a une nouvelle réglementation cette année, puisque les professionnels vendent le neuf avec des vélos immatriculés. À partir de juillet prochain, ils vendront des vélos d'occasion aussi marqués, donc chez le vendeur. mais aussi des entreprises, effectivement, où, à qui on peut proposer des séances théoriques sur l'apprentissage du vélo et la mobilité à vélo pour développer le déplacement domicile-travail. Donc ça intéresse certains employeurs, ou aussi, pourquoi pas, un atelier brico-vélo hein, avec les personnels. Donc là, c'est une prestation, enfin, en quelque sorte, qu'on propose à des entreprises. Et notre fédération va le lancer un label employeur pro-vélo. Il y a déjà des entreprises qui anticipent là-dessus et qui veulent aussi s'inscrire dans cette démarche de développement durable, on peut dire. On a eu des contacts passés, mais d'autres en projet, et je pense qu'on va effectivement être plus offensif à l'avenir sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de travail encore à faire aussi, là aussi, et peut-être en complément avec les collectivités pour sécuriser certains trajets.
Je ne sais pas d'ailleurs si c'est valable pour tout. L'employeur qui prend la moitié en charge quand si on va au travail à vélo, c'est ça ?
Il y a effectivement déjà un abonnement sur la moitié du transport public. Hein, et ça peut aussi être valable sur une location de vélo. Ça fonctionne déjà, il y a des gens qui l'utilisent, donc ça c'est important. Il y a un forfait mobilité durable qui a pris la place de l'indemnité kilométrique vélo. Donc c'était dans la loi d'orientation des mobilités hein, qui a été votée. Donc c'est quelque chose qui se développe. C'est aussi aux salariés d'en faire la demande, parce que pour l'instant, les entreprises ne sont pas obligées. Donc voilà, il faut aussi que les gens soient demandeurs. C'est comme pour les stationnements des vélos, c'est aussi aux salariés de demander là où il n'y a pas d'abri ou de rangement pour aller au travail. C'est important pour un stationnement long d'avoir quelque chose d'abrité.
À noter que la bourse à vélo, initialement prévue en avril, a été reportée au 4 septembre à cause des conditions sanitaires. Ce sera le moment de tous les bons plans autour de la bicyclette. L'ensemble des reportages autour de l'association Place au Vélo est à retrouver en podcast sur notre site.
Oh, when you fell in love with me. Yes, you did, you took me to A from Z. Yes, you did. It was something you could see. Oh, I found my key. We're in perfect harmony with every verse and rhyme. Even bums get lucky sometimes. Something, yeah, just for hanging around. Even bums get lucky sometimes. Lucky sometimes. Even bums get lucky sometime.
Les Agités du Mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les Agités du local du mois.
Les concerts n'ont pas encore repris et pourtant on entendait de belles harmonies vocales la semaine dernière au Carré à Château-Gontier. Le chœur professionnel In Paradisum enregistrait son deuxième album en compagnie de la soliste Amélie Raison, avec la joie forcément de remettre les pieds sur scène, mais aussi l'exigence d'un travail bien différent d'un live.
Donc, je suis Désirée Pantier, je suis la chef du chœur In Paradisum depuis sa création en 2015. Et puis je suis mayonnaise, donc je suis enseignante aussi au Conservatoire de Laval.
Moi je suis Amélie Raison, donc soliste sur cet enregistrement, invitée par Désirée et par In Paradisum, par toute l'équipe. Et donc je suis chanteuse lyrique intermittente du spectacle.
En fait, c'est notre deuxième album et l'idée c'était de prendre un répertoire qui nous ressemblait, enfin voilà, qui était un peu la nature de notre création. On a été créé avec une création, en fait, une pièce qui a été écrite pour l'occasion. et on en fait beaucoup, donc on voulait faire du répertoire contemporain, et donc on défend ça, le répertoire contemporain et la voix lyrique, en fait, pour les gens ont un peu l'image de la Castafiore, et donc bon, normalement avec Amélie, ils verront que c'est pas la Castafiore. Et en fait voilà, on avait une pièce de Thierry Machuel qu'on a créée il y a 2-3 ans, et voilà, on avait fait la création, puis il était resté un peu dans les tiroirs, et on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir l'enregistrer, et donc bah, c'est souvent ce qui se fait, et puis c'était l'occasion d'inviter du coup quelqu'un, donc on l'a repris, puis on s'est dit qu'on allait inviter Amélie, qui est mayonnaise aussi, en fait le chœur est basé en Mayenne depuis 1 an et demi, donc on s'est dit voilà, quitte à faire local, autant prendre les forces vives du coin.
Alors moi je ne la connaissais pas pour le coup, et donc puisqu'elle n'a jamais été enregistrée, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, qu'on ne peut pas écouter encore en ligne, bientôt du coup. Je vous invite à acheter l'album du coup qui va sortir. Mais donc oui voilà, c'est que Désirée m'a proposé de recréer cette pièce, c'est ce qu'on va pouvoir dire dans ce cas-là. Donc, et je pense que les membres du chœur ne la connaissaient pas forcément tous ou ne l'avaient pas forcément tous faite, donc c'est aussi une découverte voilà, qu'on a fait tous ensemble.
Mais en fait le travail il est beaucoup plus pointu, parce que c'est quelque chose qui reste et qu'on écoute et qu'on réécoute, donc la moindre imperfection qu'on n'entendra peut-être pas en spectacle, même que nous on n'entendra pas parce que voilà, on est dans la prestation, et bien en fait on va la réécouter, puis on va dire mince, ça va pas, ça va pas, et donc l'idée c'est d'aller vraiment au plus près de ce qu'on peut faire tout en gérant en fait la fatigue, parce qu'on va le faire une fois, deux fois, trois fois ça va être mieux, quatrième, ah oui mais il y aura quelque chose de mieux, mais il y a autre chose qui va pas marcher, et puis au bout d'un moment la concentration elle s'abîme un peu, donc c'est un peu plus ça à gérer, d'avoir une concentration permanente. Moi je vais réécouter pour avoir vraiment au casque le détail, tout ça au calme, et puis on fait réécouter un petit peu aussi aux chanteurs pour qu'eux aussi prennent en main leur, voilà, ce qu'ils entendent qui fonctionne pas. Moi je leur fais des retours, mais de l'entendre c'est quand même plus parlant. Du coup Amélie écoute aussi pour se faire une idée aussi, et puis on retravaille ensemble en fonction voilà, des besoins de l'un et de l'autre pour que tout le monde soit content.
On cherche la perfection même si ça n'existe pas bien entendu, mais en effet c'est très différent d'un live du coup, c'est très très différent, donc c'est ça, on va réécouter, travailler, c'est de l'orfèvrerie en fait vraiment, et chaque chanteur est très important, du coup chaque petite couleur sont importantes, donc ouais c'est un vrai travail d'orfèvrerie, c'est ça.
Et demain, lors du deuxième épisode, nous verrons comment les chanteurs ont passé techniquement et pratiquement ces 4 jours d'enregistrement assez intenses, vous l'entendrez. Notre feuilleton cette semaine est consacré aux coulisses de l'enregistrement d'un CD avec le chœur professionnel In Paradisum. Il a commencé évidemment hier, vous l'avez entendu. Cet enregistrement a eu lieu la semaine dernière à Château-Gontier sur la scène du Carré. C'est le 2e album du chœur qui avait hâte de chanter à nouveau ensemble, même sans public à cause des conditions sanitaires. Petite présentation de l'ensemble vocal par Désirée Panetier, la directrice artistique du chœur, et de son association sur ce projet avec la soliste Amélie Raison.
Alors on est 16 chanteurs, 17 avec Amélie. Et puis on a Thomas qui est caché dans les loges pour réécouter. Son travail ouais, est primordial parce que voilà, le placement des micros, tout ça pour refléter ce qu'on entend le mieux possible en vrai, sans bidouillage. Et puis lui aussi, voilà, il a son avis de technicien qui fait qu'on réfléchit à plusieurs et qu'on arrive à trouver la bonne version. Mais la perfection n'existe pas, et des fois il vaut mieux un ou deux petits accros, mais où on a la pièce globale avec une vraie émotion, que quelque chose de parfait mais complètement froid. Ce qui est vicieux dans un travail comme ça, c'est que plus ça va, plus on entend les choses qui ne vont pas. Il faut réussir à reprendre du recul. Et puis c'est pour ça que c'est important d'être à plusieurs pour entendre des choses différentes et à la fois aussi se rassurer en se disant « oui, mais ça fonctionne, ça fonctionne ». Et à chaque fois, on peut réentendre quelque chose qui ne va pas, quoi. Bon, après, il y a du travail qui se fait après aussi. C'est-à-dire que nous, on va réécouter au calme. Voilà, je ferai des choix aussi en parlant avec Thomas, avec Amélie, et puis on fera ça aussi à tête reposée, justement, pour plus être dans le vif de l'action et la fatigue aussi, parce que voilà, on répète depuis lundi, donc c'est une gestion aussi du temps, là, qu'ils sont en pause, mais essayer de varier un peu tout pour que l'énergie soit là tout le temps. Alors, on a 7 pièces. En fait, la première fois qu'on avait fait notre album, on l'avait fait une journée, ça avait été épuisant. Et donc là, on a une pièce de plus, mais on est sur 2 jours, donc on a le temps de prendre des pauses pour que les chanteurs sortent dans les meilleures conditions possibles. On se rend pas compte qu'en fait, la concentration, la voix, tout ça, c'est très très intense en fait. C'est vrai que les gens se rendent pas compte de l'investissement que c'est, mais on leur demande d'être au taquet, parfait sur chaque note, sur chaque mot, sur chaque syllabe, sur tout. Et donc ça demande énormément d'énergie. Donc oui, c'est ça, c'est répartir, faire un bon équilibre entre des temps de concentration, les temps de détente où ils peuvent se reposer aussi, pour tenir justement 4 jours, quoi.
Alors moi, du coup, c'est un petit peu différent parce que je ne fais pas partie de l'ensemble-là, donc je n'ai pas là ce travail à faire. Mais en effet, quand on fait des enregistrements, il y a d'abord la période de répétition et la période d'enregistrement. La clé, je dirais, c'est de savoir se détendre au bon moment, clairement. Les pauses sont très importantes. C'est quel rythme on va nous imposer aussi. La voix, c'est quand même... c'est solide, mais c'est aussi fragile. Il faut y faire attention. Il y a toute une hygiène de vie quand même. Il faut bien dormir, il faut bien s'hydrater, beaucoup d'eau. C'est du sport, en fait. C'est vraiment du sport. Bon, faut pas oublier les moments de détente hein, réels qui sont aussi importants pour l'esprit de groupe et ça fait de la belle musique aussi. Les humains qui s'entendent bien, ça marche souvent bien pour faire de la belle musique. Le secret, je dirais quand même, c'est du repos au bon moment, savoir se ressourcer dans les temps qui nous sont donnés.
On se connaît depuis pas mal de temps, on a étudié ensemble, tout ça, donc on a toujours été un peu en contact. Mais oui, c'est la première fois qu'on travaille officiellement ensemble. Naturellement, on va se tourner aussi vers des gens qu'on connaît parce que voilà, ça va. Il y a un lien qui est déjà là et que c'est beaucoup plus facile. Après, on peut découvrir des personnalités qu'on ne connaît pas, mais il y a quand même quelque chose qui est rassurant et qui fait qu'on. C'est ce qui fait naître beaucoup de projets, je pense. C'est qu'on connaît des gens et qu'on se dit ah ben, on a envie de travailler ensemble, donc on fait quelque chose. C'est complètement lié au programme qu'on va choisir. Là, on a choisi de faire a cappella, on fait des choses aussi avec piano. Ça dépend vraiment. Dans le premier CD, il n'y a pas de soliste. Pour un CD comme ça, c'était l'occasion. Parce que c'est compliqué si on a quelqu'un extérieur au chœur et qu'on doit faire 10 concerts derrière. Les deux ne sont pas forcément liés. C'est une bonne opportunité ouais, de faire des choses ensemble.
Et vous pourrez entendre les portraits plus détaillés des deux personnes que vous avez entendues, donc Désirée Pantier et Amélie Raison, ce sera dans l'épisode de demain. Ils avaient hâte forcément de chanter à nouveau ensemble. La soliste Amélie Raison revient sur son parcours. Elle a rejoint effectivement le chœur à cette occasion. Et sur cette année difficile pour les artistes avec la directrice artistique du chœur, Désirée Pantier.
Ben moi j'ai commencé à l'école de musique de Cossé-le-Vivien dans mon petit village. Voilà, pour ensuite faire un petit bout de chemin à Laval. C'est là où j'ai rencontré Désirée du coup. Et ensuite, j'ai fait un petit bout à Rennes aussi, parce que j'ai fait la fac à Rennes et je suis partie à Paris pour la fin de mes études, voilà, pour les études supérieures. La suite, donc, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde, on le sait. Mais donc, je travaille avec pas mal d'ensembles qui sont basés à Paris, en Ile-de-France. En fait, quand on est intermittent, on travaille un peu partout. L'idée, c'est d'aller auditionner à droite, à gauche. Et si ça marche, on nous propose des projets. Et ensuite, ce sont des projets qui bougent, qui voyagent. Donc ça, c'est assez merveilleux. Franchement, ça, je dirais que pour moi, ça a diminué de moitié. Après, je fais quand même partie des chanceuses qui ont du travail cette année. J'ai eu des beaux enregistrements, en fait. Il y a eu énormément d'enregistrements cette année, de captations. Il y a des gens qui se réinventent un petit peu aussi, qui proposent du coup des live streams ou alors beaucoup de concerts en collège, en école, quand elles étaient ouvertes. Voilà. Mais voilà, il y a des gens qui travaillent beaucoup pour se réinventer. Il y a des structures, comme ici d'ailleurs, qui accueillent malgré le confinement et tout. Et donc ça, c'est quand même hyper précieux. Il faut les remercier. Moi, je les remercie beaucoup parce que ça fait vraiment du bien de retourner au travail avec une équipe comme ça et des locaux incroyables. Là, ça faisait quelques semaines que je n'avais pas travaillé quand même. Ça fait des grosses périodes de trous par-ci, par-là, ouais. On s'arrange comme on peut, on tient bon, ça, on va sortir de tout ça, j'en suis sûre, mais c'est vrai que c'est un peu long.
On a prévu cet enregistrement il y a un an, quand le confinement est arrivé en mars, on n'imaginait pas qu'un an plus tard, on en serait toujours là, parce qu'on avait prévu un concert de fin de résidence au château de Cran, voilà, on avait tout plein de choses, mais bon, heureusement du coup qu'on avait prévu ça, parce que ça nous a permis de répéter, de pouvoir faire cet enregistrement. Après, il nous manque le public, hein, le spectacle vivant, sans public, c'est pas du spectacle vivant, c'est du spectacle mort. Donc non, il nous manque ce retour d'énergie là en fait, quand on dit que les chanteurs c'est hyper intense, mais on est aussi énormément encouragé et enfin on sent une énergie du public quoi, que là on est un peu seul entre nous, mais on est très chanceux de pouvoir faire ça et on est très content, mais on a hâte de retrouver le public. Alors moi j'ai commencé à l'école de musique de Loiron. J'étais flûtiste il y a très longtemps. Et puis voilà, conservatoire de Laval, conservatoire de Rennes, la fac à Rennes aussi. Et puis le pôle supérieur de Rennes pour voilà, avoir une licence d'interprète et puis deux diplômes pédagogiques. Et puis depuis, alors j'ai beaucoup, pendant mes études aussi, été chef en Mayenne. J'ai fait pas mal de chœurs en Mayenne. Et puis aujourd'hui, je suis au CRD de Laval Aglo. Je suis un petit peu sur le territoire là puisque je suis à Cran pour l'orchestre d'harmonie et puis je suis au conservatoire de Paris avec le jeune chœur de Paris, Donc voilà, ça c'est le côté pédagogique. Et puis avec In Paradisum pour tout ce qui est artistique, voilà, ou des projets pareils ponctuels, mais qui se sont tous un peu écroulés pendant cette période. Mais ça va revenir, pareil, on croise les doigts. Vu qu'on a fait peu de concerts, on a eu aussi moins de rentrées de fonds pour l'association. Donc on a lancé une collecte de fonds sur Helloasso pour aider à financer tout ce qui est technique, en fait. Tout ce qui est son, le travail de Thomas, le mixage, le pressage après. Et puis c'est l'association qui prend en charge les cachets des artistes. Mais donc voilà, si les gens veulent participer en tout cas à l'enregistrement, le Helloasso est encore ouvert.
Et il le sera jusqu'à fin mai. Le concert prévu au château de Cran, lui, est repoussé à l'automne. Et l'album sortira en septembre et sera disponible notamment chez Emnir et Cultura. Demain, on s'intéresse au travail d'ingénieur du son sur l'enregistrement de cet album. De regarder du côté des coulisses avec Thomas Ricou, le technicien du son, qui nous explique son rôle sur ce projet précis.
En fait, In Paradisum m'a contacté pour refaire un disque ensemble. On avait déjà travaillé ensemble sur le précédent. Et donc voilà, je suis venu au Carré. Enfin voilà, ils ont proposé de faire ça au Carré, qui est quand même un théâtre qui a une très très chouette acoustique. Et donc voilà, ils m'ont demandé de venir faire la prise de son pour eux. Et donc après, de restituer au mieux ce qu'ils proposent.
Dès le début, est-ce que vous saviez quelle disposition il allait avoir, combien de micros, tout l'aspect technique, comment est-ce qu'on gère ça?
Alors en fait, il y a ce qu'on a un peu dans la tête de base. Donc il y a une implantation que j'ai en tête, et puis après l'idée c'est de l'adapter en fonction de ce qu'on entend sur place, c'est-à-dire qu'effectivement suivant les morceaux ils ne sont pas disposés pareil, ils ne sont pas disposés forcément par pupitre, mais après l'idée c'est, sur ce genre de musique, l'idée c'est de capter le plus naturel possible, capter à la fois leur voix mais aussi l'acoustique du lieu. Parce que l'acoustique dans cette musique-là est quand même très très importante, donc c'est d'arriver à capter les deux. Et puis après, de voir avec eux, ils viennent écouter ici. Ça a été la première étape pour qu'ils soient, ce qu'ils entendent ici soit déjà très proche du résultat final. Et puis une fois que ça c'est fait, bah après c'est leur travail de chanter, de faire les bonnes versions et de travailler le côté musical. Ils font plusieurs versions. Moi, je scripte ça aussi au fur et à mesure. Comme ça, quand ils viennent ici, on écoute directement les bonnes versions. Et puis et effectivement, après, c'est eux qui choisissent les versions qu'ils veulent. C'est très complémentaire, c'est-à-dire que s'ils font appel à quelqu'un d'extérieur, c'est vraiment pour se décharger de tout le côté technique et pour vraiment se concentrer sur le côté musical. Et pour le coup, sur ce type de projet, moi je suis là vraiment pour le côté purement technique. Donc faire en sorte que la prise de son fonctionne et qu'ils entendent ce qu'ils veulent. Donc oui, on est vraiment, l'un marche pas sans l'autre pour le coup.
Et demain, un feuilleton tout en musique aussi, avec un zoom sur la suite de la conception de l'album, c'est-à-dire comment on passe des enregistrements déjà réalisés à un album qui sera prêt à être écouté.
Thank you.
cœur du processus d'enregistrement d'un album, celui du chœur professionnel mayennais In Paradisum, qui a répété et enregistré il y a quelques jours au Carré à Château-Gontier. Le chœur est composé d'une quinzaine de chanteurs, dirigés par Désiré Panetier et accompagnés sur ce projet par la soliste Amélie Raison. Ils sont accompagnés aussi par le technicien du son Thomas Ricou, qui nous explique aujourd'hui les dernières étapes nécessaires avant d'avoir enfin l'album entre les mains.
Là, on enregistre tous les micros séparément. Donc ça va être de revoir après en post-production avec Désiré, je pense, enfin de retrouver les équilibres et surtout l'équilibre entre le son de proximité, donc les micros qui sont plus proches d'eux, et les micros plus d'ambiance de salle. Suivant les ambiances d'émotion des morceaux, on va vouloir un son plutôt proche ou d'autres plutôt lointains. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on verra ensemble puisque c'est des choix artistiques, en fait. Et donc, c'est clairement à eux de les prendre. Donc voilà, moi, je suis force de proposition. En gros, c'est ils vont exprimer ce qu'ils veulent en émotion. Et moi, je vais mettre le côté technique pour exprimer ça. Il y a un vrai choix qui est fait déjà dès la prise de son, mais on a encore de la marge de manœuvre en post-production. En musique classique, comme ça, l'idée étant d'être le plus, entre guillemets, réaliste possible. On va pas agir sur énormément de paramètres, contrairement à que ce soit en musique actuelle ou ce genre de choses, où là vraiment l'idée n'est pas du tout de faire du naturel, c'est de faire un tableau complètement inventé. Là l'idée c'est de reproduire presque une photographie. Ce qui va vraiment être nécessaire au mixage, c'est plus retranscrire l'émotion par la profondeur de champ presque. En photo, voilà, est-ce qu'on veut un truc plutôt net avec un fond flou ou un fond net? C'est plus sur ces humeurs-là qu'on va agir, plus que vraiment sur le traitement du son.
Un projet comme ça, votre travail il est moins long, moins important ou différent en fait?
Il est très différent puisque là, c'est sur ce type de projet, j'ai vraiment une application technique et effectivement, la part artistique, elle est complètement gérée par eux. A contrario, sur un projet que ce soit pop ou n'importe quoi en musique actuelle, il y a une part beaucoup plus importante d'implication dans l'arrangement, dans plein de choses. Là, c'est une part purement technique. Donc effectivement, la prise de son comme ça fait qu'au mixage, on passe beaucoup moins de temps que sur un projet de musique actuelle ou ce genre de choses. Là, effectivement, ça va être surtout de vérifier que tout est bien et puis de retranscrire. Ça va être vraiment des équilibres de micro, en fait, essentiellement, plus que du retraitement. Même avant toute cette période-là, la partie enregistrement était déjà quelque chose d'assez important dans mon activité. Donc là, elle se recentre d'autant plus du fait de ne pas avoir trop de live. Mais voilà, pour moi, les deux ont toujours été nécessaires. Donc pour l'instant, voilà, le fait d'avoir de l'activité en ce moment, c'est plutôt chouette.
Et oui, plutôt chouette de travailler sur ce CD qui sera disponible au mois de septembre. Pour les aider dans ce projet, vous pouvez encore contribuer à la cagnotte d'In Paradisum. Rendez-vous sur Hello Asso.
C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux agités du mois.